J'aimerais remercier les trois conférenciers de leur présentation fort intéressante et même divertissante. J'aimerais maintenant inviter Miguel Angelos, qui est professeur à l'École polytechnique de Montréal. Il est directeur de l'Institut Strategie de l'énergie. Miguel animera la période de questions et de réponses. Je vous cède la parole. Merci, je suis bachiste. Nous avons maintenant le temps de prendre les questions. Julien est avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Très bien, merci. Il nous entend. Nous n'avons pas entendu. Donc, je présume qu'on nous prend l'entendre, qu'il sera au micro.
Et n'hésitez pas. There are microphones in the aisle if you wish to.
Il y a des micros dans les allées. Si vous voulez poser vos questions, je vous demande d'aller faire la file derrière les micros. Puisque nous avons beaucoup de questions, nous vous demandons d'être concis et bref dans vos questions. Je vous demande aussi de vous en tenir à une seule question. Et soyez clair pour que les conférenciers puissent y répondre. J'aimerais maintenant inviter M. Lorne Trottier à poser la première question. Merci, j'espère que vous m'entendez. Nous avons des choses très intéressantes de la part de nos conférenciers. Il y a des idées, des solutions intéressantes pour assurer la durabilité des augmentations d'efficacité dans le domaine du logement, dans le domaine de l'automobile, et comment réduire la consommation des matériaux, comment recycler les matériaux, et comment augmenter les cycles de vie des produits. Et ça, nous avons beaucoup de solutions technologiques qui sont soit en phase de développement ou en phase de mise en marché. Mais j'aimerais poser la question suivante aux conférenciers. Comment peut-on encourager la société à utiliser ces technologies à l'échelle nécessaire pour changer la donne? Est-ce qu'il y a un conférencier qui aimerait commencer? Nous pouvons en faire plus en ce qui a trait à nos politiques. C'est ce qui comprend les politiques internationales pour régler les questions de changement climatique, en passant par les politiques fédérales, provinciales, municipales et locales, y compris les règlements administratifs ou universitaires. Nous devons avoir des politiques sur le prix des matériaux. La taxe du carbone pourrait complètement changer la valeur de l'énergie et la valeur de nos matériaux. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire aussi avec la réglementation pour créer les bons incitatifs. C'est le bon prix aux matériaux, voir le coût réel, les matières vierges, le coût que nous payons en ce moment par rapport au coût des matières recyclées. Utiliser plus de mesures incitatives pour encourager l'adoption des technologies pour surmonter ces problèmes avec les coûts initiaux et gérer l'enjeu du grand coût des matières. Ce qui nous permettrait aussi de réduire notre empreinte par produit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les politiques et la planification, mais cela nécessite le leadership dont nous manquons. Donc, je vous incite à voter pour des meilleurs décideurs. Tim? Les politiques sont difficiles à mettre en œuvre si la population ne les appuie pas. On pourrait mettre en œuvre une taxe au carbone. La population sentirait immédiatement le lien entre le carbone et leur vie courante. mais cela semble être une initiative qui a un grand prix politique. L'autre option, c'est de faire des exercices de modélisation complexes pour essayer de trouver des solutions et par la suite simplifier ces modèles afin que les personnes puissent comprendre les conséquences. Je crois que les personnes ne connaissent pas ces conséquences. Mais à mon avis, nous avons des technologies merveilleuses qui donnent la fausse impression qu'on peut faire à peu près tout. Mais cela est fondé sur des choses simples qui viennent de loin et n'ont aucune idée de la connexion. Donc, l'éducation et le partage de savoir. Mais en travaillant ensemble, nous serons en mesure de mettre en œuvre ces politiques et qui auront un appui populaire plus grand. Un autre sujet dont on a parlé hier et qui s'applique très bien à la soirée ce soir, dans les plus petits groupes, les citoyens ont plus de droits de vote. Je crois que les décisions doivent se prendre à partir de plus petites entités. Il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis où nous n'allons pas adopter des programmes de recyclage nationaux ou des politiques énergétiques nationales, mais cela peut se faire ville par ville, État par État. Il y a plus d'unité dans les plus petites collectivités. Je crois que c'est la voie à suivre. Julien, avez-vous un commentaire à faire? Je suis entièrement avec ce que Tim a mentionné à la fin. Mais je ne suis pas d'accord avec l'idée du prix du carbone. Je crois qu'on doit abandonner ce sujet de discussion. Le prix du carbone a fait l'objet de plusieurs pourparlers entre organes internationaux. Mais le prix du carbone va seulement pénaliser ceux qui peuvent gagner à l'augmentation de l'utilisation énergétique. Donc, ils seront toujours contre le prix du carbone. Les politiciens vont seulement adopter des nouvelles politiques si ils estiment que la population appuie leur politique. Les mouvements de protestation sociale essayent d'établir une nouvelle priorité. Je crois que c'est ce qui est une nouvelle. Je crois que la sensibilisation est très importante. Nous avons les opportunités de nous pencher sur le leadership social. Et dans la construction, j'essaie de trouver les utilisateurs des bons principes de conception. Je viens de parler avec une des chaînes de supermarché qui voudrait utiliser un magasin 100% réutilisable. Une fois que le magasin ne sera plus utilisé dans 20 ans, toute la matière pourrait être expédiée. Même si cela augmente les coûts de production, ils étaient intéressés car cela pourrait donner un attrait social à cette chaîne de supermarché. Je crois que les grandes entités qui ont les moyens peuvent prendre le leadership et faire des choses un peu plus coûteuses aujourd'hui, mais qui accomplissent ces choses à cause du capital social qu'elles obtiennent en retour. Il me semble que le problème va au-delà de la technologie et des ressources financières. Cela touche la dignité humaine. Nous devons non seulement avoir des industries des villes plus durables, nous devons avoir des milieux de vie et des milieux de travail, des hôpitaux plus favorables à la vie. Tout dépend de la question de ce qu'on vise. Est-ce qu'on vise à avoir un immeuble plus efficace ou est-ce qu'on veut avoir un logement qui permet de mieux affirmer ses filles? Il y a trop de personnes, y compris les ingénieurs et y compris les promoteurs qui sont seulement intéressés dans les aspects technologiques au lieu de se pencher sur la question du cycle de vie. Julien, vous voudrez répondre à ce commentaire? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Si on veut obtenir une société durable, il faut avoir une identité. Cela pousse les ingénieurs à sortir de leur zone de confort. Dans la dernière année, je me suis rendu compte que je dois mettre de côté mon bagage d'ingénieur afin de pouvoir parler des ponts avec les sociologues et les experts dans d'autres disciplines, afin de pouvoir assurer de nouveaux dialogues. Notre rôle d'ingénieur est un peu restreint, car il n'y a pas une solution technologique. Mais nous sommes utiles, car sans les ingénieurs, il y a le danger que toutes les autres personnes peuvent croire aux fictions médiatisées par rapport à ce que la technologie peut offrir. Notre rôle est de garder les personnes terre à terre. Et c'est certainement pas de dire que les ingénieurs ont les réponses à tout dans le domaine du développement durable. Je vais aussi vous dire que je suis complètement d'accord. Nous sommes des ingénieurs, nous parlons en termes d'ingénierie, mais nous ne vont pas laisser l'impression que c'est le domaine de l'ingénierie qui tient toutes les réponses aux enjeux de développement durable. Je me demande, lorsque j'enseigne l'ingénierie, j'essaie d'enseigner ce qui est nécessaire pour être un bon citoyen du monde. Je crois que nous devons être en mesure de faire dans tous les cours d'ingénierie, dans tous nos cours. Nous devons aussi changer les normes par rapport à ce que l'on aspire. Dans la société, on nous semble impressionné par les personnes qui ont des grandes demeures, mais on doit changer ça. Si on peut rester dans une plus petite demeure, on devrait être valorisé au lieu de sentir qu'une petite demeure est un synonyme d'échec social. Le domaine médical, on se concentre seulement sur la maladie, non sur la santé. Je crois que le vrai s'applique à tous les autres domaines de la société. On doit regarder tout le reste dans un sens plus mondial et pas s'emprisonner dans les coins. Merci. Nous allons prendre le premier intervenant au micro en arrière. J'aimerais vous remercier de vos trois excellentes présentations. Il me semble qu'à titre d'architecte, de planificateur ou d'ingénieur, on nous dit de la responsabilité de trouver des solutions simples seulement des symptômes, alors que le problème fondamental est un système économique dont l'impératif est la croissance continue. Tous les problèmes que vous avez soulevés aujourd'hui reviennent au point qu'il y a une industrie avec une armée de publicistes qui veulent stimuler sans arrêt la consommation. Les économistes ont créé plus de dommages à la planète et plus de souffrance à l'unité que les autres groupes. En tant qu'ingénieurs et architectes, nous devons comprendre le domaine de créer un système économique durable. Micro en avant. J'aimerais remercier les conférenciers d'avoir partagé leur espoir, ainsi d'avoir parlé de l'ampleur de l'enjeu. L'enjeu se trouve au niveau politique local, municipal, provincial, etc. J'aimerais savoir comment on veut mobiliser les étudiants d'ingénierie pour devenir les évangélistes et d'aspirer à la durabilité et d'exiger de nos politiciens. Quel message allons-nous partager avec nos politiciens? Et que feront-ils pour trouver une solution? Est-ce qu'il y a un nouveau qui souhaite prendre la parole? Les étudiants présentent l'espoir. Voilà pourquoi j'enseigne. Les problèmes sont énormes, mais je suis optimiste étant donné les esprits remarquables que je côtoie au quotidien. devons appuyer les étudiants dans leurs initiatives. Il s'agit non seulement de faire des exercices académiques, mais aussi faire de l'apprentissage par expérience, donner l'opportunité aux étudiants de travailler sur des projets dans les collectivités, permettre aux étudiants de faire des recherches sur le terrain afin que les étudiants puissent démontrer des modèles, des systèmes qui apportent des améliorations. C'est de permettre aux étudiants de travailler dans les laboratoires universitaires. C'est très important. Les étudiants sont souvent en avance par rapport à la faculté. Leur reconnaissance de l'urgence de la situation et dans leur enthousiasme pour la transformation. Les ingénieurs se concentrent sur la construction, mais quand, en ce qui a trait aux politiques, les étudiants s'impliquent beaucoup. Je crois que l'engagement actif est primordial dans les systèmes universitaires. Julien? Dans les deux volets de questions, vous avez raison que la croissance est un problème. La conférence pour dire que je ne peux pas associer croissance et écologie ensemble. Et quand j'ai mentionné le PIB et que notre objectif est de toujours augmenter le PIB comme mesure de réussite. Et on pourrait utiliser d'autres mesures comme la façon dont on utilise notre temps de façon plus efficace au lieu d'augmenter sans cesse le PIB. Mais les étudiants sont très enthousiastes, et surtout au niveau du doctorat. Je trouve que les étudiants sont très intéressés par cet aspect, car ils comprennent. Et même lorsqu'ils obtiennent leur doctorat, ils voient qu'il y a un plus grand besoin dans les entreprises pour les personnes qui ont changé de cité. La question la plus difficile dont on n'a pas posé, c'est comment qu'on peut convaincre les ingénieurs d'entreprendre la carrière de devenir politicien. C'est un choix de carrière que j'envisage vraiment pas pour nous-mêmes. Et je crois que nous avons seulement un député parmi les 600 députés de notre Parlement qui est ingénieur. Peut-être qu'on pourra encourager nos étudiants à même envisager une carrière politique pour faire une différence dans ce monde. Micro à l'arrière de la salle. À un moment, j'aimerais vous mentionner que je suis très heureux qu'on me concentre non seulement sur les technologies, mais qu'on a aussi apporté le débat sur des aspects philosophiques, comme changer nos états d'esprit et changer nos comportements. J'aimerais associer ces concepts à deux définitions. Peut-être que vous les connaissez, mais j'aimerais vous les rappeler. Je crois qu'on a une mauvaise conception de ce qu'est l'économie. L'économie vient du grec « ekos » et « nomios », ce qui veut dire la gestion du ménage, de s'occuper de son habitat. Ça ne veut pas dire l'échange de biens et de produits pour obtenir ce profit. L'écologie, la science de son habitat. Donc, si on le veut, non, l'écologie et l'économie vont main dans la main. Il faut savoir comment son habitat fonctionne afin de pouvoir s'en occuper. J'aimerais revenir à la même question que tout le monde semble poser. Qu'est-ce qu'on veut faire pour changer la philosophie? Et comment la prochaine génération, ou même la génération actuelle, je crois. Selon votre expérience, quelle est votre opinion sur notre rôle de scientifique, d'ingénieur, de professionnel pour changer la situation? Et je vous suggère une piste de réflexion. Comment vous sentez-vous par rapport à faire du bénévolat pour un organisme environnemental comme Greenpeace? Moi, je suis bénévole pour un programme scientifique pour les scientifiques. C'est ma question. qu'est-ce que vous pensez à offrir votre temps et encourager d'autres professionnels et vos étudiants peut-être à offrir leur temps pour changer les mentalités, sûrement en étant dans des groupes sociaux comme des groupes environnementaux, des groupes éducatifs et autres. Est-ce qu'il y a un conférencier qui souhaite répondre à cette question? Je crois que notre rôle, j'ai déjà parlé de notre rôle en tant qu'ingénieur, ça c'est mon rôle de démystifier la croyance que nous avons une solution miracle à tous ces enjeux. La semaine dernière, j'ai donné une présentation durant une séance qui comprenait un professeur en éthique. Il a regardé son revenu pour la vie. Il l'a établi à un salaire seulement un peu plus élevé que son salaire qu'il obtenait lorsqu'il a été diplômé. Et il a regardé qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ses surplus de revenus qu'il donnerait. Il avait plafonné son salaire et le reste, qu'est-ce qu'il gagnait, il l'offrait à toutes les autres personnes. Et j'ai pensé à ça d'un point de vue, il a raison. Nous avons tous plus de revenus dont nous avons besoin. Et ce dont je voulais parler, c'est qu'il a vraiment fait ici. Qu'il a aussi raison d'un point de vue d'énergie d'efficacité. Votre empreinte écologique dépend de votre revenu. Plus le revenu augmente, plus l'empreinte écologique. Hein. Donc, donner son argent est peut-être la chose la plus éthique qu'on peut faire. Et je ne sais pas comment je vais réagir à ça. Je dirais qu'en type de scientifique ingénieur, nous avons la responsabilité, le rôle d'offrir bon renseignement pour servir de modèle. Nous penchons sur de nouvelles technologies comme les ampoules à diodes incandescentes lumineuses. On peut penser à l'adoption de technologies en aidant les personnes à comprendre comment les technologies fonctionnent et en expliquant leurs avantages. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au chapitre personnel, dans sa communauté, dans sa famille. Et puis participer à différents forums en soutenant des politiciens ou en travaillant à l'université pour aider à mettre en œuvre le changement. La clé, c'est que nous avons des connaissances qui sont importantes pour informer la prise de décision. Mais nous ne sommes pas bons dans la diffusion de ce savoir. Nous devons mettre plus d'efforts sur la diffusion du savoir que nous créons. Merci. Le monsieur à l'avant. Merci de votre présentation. Ma question est pour professeur King de l'Université du Michigan. Ma question concerne le transport. Surtout le sujet dont vous avez parlé, l'utilisation énergétique durant le cycle de vie, c'est qui est dominé par l'utilisation de carburant. Qu'est-ce que vous pensez des ingénieurs qui conçoivent des voitures qui ont de plus en plus d'autonomie, mais que l'intensité énergétique va augmenter si on utilise des matières plus légère, l'intensité énergétique de la fabrication, c'est une matière beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un effet inversé en proposant de nouvelles solutions? Est-ce que vous parlez des matières légères qui sont plus intenses en termes d'utilisation d'énergie lors de la fabrication ou lorsqu'on améliore notre efficacité, il y a un effet involu, c'est-à-dire on va conduire plus car on a plus d'argent disponible pour le transport. Si on a un véhicule plus efficace, on peut augmenter l'utilisation personnelle. Vous parlez de l'effet de rebond. Peut-être que je devrais céder la parole à Tim car il a étudié cet effet, surtout avec l'éclairage. Je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose. C'est une réalité malheureuse et déplorable. Il lorsqu'on rend certains services énergétiques plus efficaces, cela réduit leur prix réel, et en réduisant leur prix réel, on stimule la demande. Une réalité que les économistes connaissent très bien et que les ingénieurs commencent à prendre. Cela montre le parcours compliqué entre nos actions personnelles et leurs effets sur le monde. Il faut comprendre ces réalités et aider les autres personnes à les envisager. Nous devons une plus grande connaissance sur les effets potentiels et nous pouvons planifier l'avenir en tenant compte de ça. Et je dirais que du point de vue du transport, nous commençons à plafonner dans le nombre de kilomètres qu'on parcourt par véhicule. Il y a un maximum de temps qu'on veut rester dans son véhicule, c'est à peu près une heure de transport par jour. Je crois que l'efficacité des autos, je ne crois pas que cet effet indésirable ne sera pas aussi grand, même si nous augmentons l'efficacité de consommation. Julien, est-ce que vous voulez faire des commentaires? Non, ça va. La prochaine question sera au monsieur Armand. Je ne veux pas sonner comme un hippie romantique désespéré, où ce que j'ai commencé ma carrière en ingénieur. Mais un sujet dont nous n'avons pas parlé beaucoup ce soir, c'est le plaisir. Si on se penche sur les problèmes de dépendance pour les aliments gras, et la dépendance pour les grosses voitures, et nous semblons être de plus en plus dépendants à la consommation comme mesure de prestige. En tant qu'ingénieur et les étudiants que je côtoie, nous avons beaucoup de plaisir à nous amuser avec les connaissances. Et j'aime avec la culture, comme le savoir que j'ai accumulé au fil des ans. La question, c'est j'ai regardé les jeux vidéo et les différentes machines. Les machines à sous. Est-ce qu'on peut trouver plaisir à répondre aux problèmes technologiques et peut-être amener les personnes à comprendre une autre valeur qui vient non seulement dans l'énergie enchâssée et les ressources enchâssées, mais aussi le plaisir à trouver des solutions pour répondre aux préoccupations du génie, pour trouver une perspective à plus long terme, peut-être cela pourrait répondre au désir de Timothée de rendre les cas de la crosse désuète pour que ce soit un lieu pour le plaisir. Et peut-être ça pourrait nous aider à mieux comprendre comment on peut miser notre demande pour les biens physiques et maximiser notre demande pour les plaisirs intangibles à faible émission à gaz à effet de serre. Puisque vous êtes à Montréal, je vous incite à prendre un bon repas, peu calorique, et qui vous rappelle comment que la culture du plaisir est bien enracinée ici, à Montréal, au Canada, car nous n'avons pas oublié les vieilles valeurs de la cuisine, de la tradition et du patrimoine. Merci. Je crois que vous avez de bonnes idées. Il n'y a pas de coût environnemental à se rassembler et passer du bon temps entre amis. Il y a d'autres moyens d'apprécier la vie. Ils devront valoriser ces modes de vie. Il y a les forces qui cherchent à en faire profit. On peut trouver des façons dont certaines de ces pratiques peuvent être lucratives, mais pour prendre l'analogie de Julien de dépendance envers les matières, on pourrait essayer de trouver des substituts à ces plaisirs matériels. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je sympathise avec l'approche du hippie romantique et je le Montréal de plus en plus d'attention. Et vous avez soulevé une question dont je n'ai pas de formation professionnelle et c'est un sujet qui serait plus facile de moi de discuter au pub. Et j'ai mon petit digestif ici. Nous avons une dernière question. Il s'agit d'une question de commentaire. Je vais essayer d'être durable et de pouvoir rattraper l'autobus pour rentrer à la maison. J'ai apprécié les trois présentations qui nous ont remis les pieds sur terre. Je cherche cette Cadillac rose pour notre avenir durable. Et les trois conférences ont parlé des Canadiens qui consomment trop de matières premières, trop d'énergie. Et nous sommes une économie fondée sur les ressources naturelles. Laissez-nous jouir de notre abondance de ressources. C'est un commentaire un peu sarcastique. Les ingénieurs font un très bon travail sur l'efficacité, la productivité, les transferts de chaleur, l'utilisation des matières, les énergies alternatives. Cela impressionne l'industrie. L'industrie revient voir les ingénieurs et utilise leurs produits. Je ne veux pas offenser la personne qui a parlé des aspects économiques, mais essentiellement, il y a le modèle qui cherche la croissance. Donc, nous utilisons les anciennes théories de finance qui nous poussent dans cette direction. Plus grande productivité, plus grand, plus de ventes. On se concentre toujours sur ce dollar. Et combien va être remis au producteur? Peut-être que ce ne sera pas 40 sous, peut-être que ce sera 1 sou. Tout va être consacré à la mise en marché. Et c'est la nature de l'économie. Et si on regarde les théories keynésiennes, c'est encore. Est-ce que vous pouvez en venir à la question? Si on regarde le côté de l'offre et de la demande, la durabilité doit sortir de l'échelle locale et de se rendre à l'échelle mondiale afin que toutes les nations travaillent ensemble en harmonie vers une nouvelle stratégie pour protéger notre mère Terre. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire? Je suggère qu'on ait tout à avoir des grands plaisirs interpersonnels ce soir. Là-dessus, nous allons conclure cette soirée. Je demanderai Shubhashis de se joindre à moi au lutrin. Et je vous rappelle que même si le symposium de cette année se termine maintenant, le symposium de l'année prochaine est déjà planifié. Le 4 et 5 mai 2015, nous serons heureux de vous recevoir à l'École Polytechnique pour le deuxième symposium annuel Trottier. Shubhashis. J'aimerais partager quelques mots sur l'Institut Trottier pour l'ingénierie, l'énergie et la conception durable. Nous sommes plusieurs chercheurs et professeurs engagés pour la durabilité, y compris d'autres organisations telles que l'Institut de l'énergie Trottier. Notre travail se concentre sur les enjeux de durabilité et dans différents volets comme le développement urbain, le transport urbain, l'aviation et les technologies d'information, ainsi que les énergies renouvelables. Nous avons aussi le mandat d'intégrer de plus en plus la durabilité dans nos enseignements. Je vous invite à nous communiquer. Il y a beaucoup d'opportunités de collaboration. Veuillez entrer en contact avec nous par l'entremise de notre site web. Et sur notre site web, nous allons afficher des renseignements sur les prochains séminaires et les prochaines publications. En conclusion, Miguel et moi-même aimerions exprimer nos remerciements au comité organisateur de ce symposium qui comprend des membres de l'IET et du TISED, beaucoup de personnes travaillées en coulisses sur la communication, la planification, les relations externes, à la fois de l'École polytechnique ainsi que de McGill. J'aimerais remercier Lauren Penny, la directrice du TISED, Laurent Devine, et plusieurs étudiants bénévoles dans leurs efforts pour organiser ce symposium.